Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Cinérama avec un sommaire qui concerne l'actualité cinématographique. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors toi Marine, tu as décidé de nous reparler d'un petit garçon et d'un film qui a marqué toute une génération.
Oui, pour le coup je ne vais pas vous parler d'actualité cinématographique, mais je vais plutôt dépoussiérer quelque chose qui nous a tous marqué dans les années 80, à savoir l'histoire sans fin. Et je vais un petit peu vous dire ce que sont devenus les protagonistes de ce film.
Et puis toi Manu, c'est l'actu.
Entre autres, puisque je vais vous parler évidemment de REC 4, enfin évidemment, et non d'Interstellar en fait.
Oui.
Parce que on n'en parlera pas.
Non, si vraiment on a le temps.
Et puis je vais clôturer mes chroniques polars avec un film qui s'appelle Poussière d'ange, qui est à mon avis peut-être le plus grand polar des années 80.
Et puis, eh bien, l'actu, en fait, c'est moi qui l'ai peut-être en parlant des opportunistes. C'est un film de Paolo Virzi, une comédie qui sort ce mercredi 19 novembre. Et puis, un très bon film, Quand vient la nuit, de Michael Roskam. Donc ça, c'est sorti déjà la semaine dernière. Et puis, c'est le cas aussi de Qui vive, un tout premier film français excellent. Et puis, eh bien, on va commencer avec un tout mauvais film. Selon toi, c'est REC 4.
Bah oui, REC 4. Alors après un sympathique REC 3, j'en avais déjà parlé ici d'ailleurs, hein, en forme de pochade parodique sur les traces de Shaun of the Dead ou autres Zombieland, alors l'espoir de boucler la tétralogie sous les meilleurs auspices ne pouvait qu'exciter les fans de la saga qui attendaient cet ultime épisode depuis un certain temps. Alors l'impatience a ses vertus quand le résultat est à la hauteur des espérances. D'autant que derrière la caméra, c'est Romé Balaguerro qui s'y colle seul, sans Paco Plaza, auteur de l'opus 3. Alors, si vous n'avez pas suivi, sachez que les deux premiers REC ont été réalisés à quatre mains par les réalisateurs cités ci-dessus. Alors, le retour aux affaires de Balaguerro ne pouvait qu'attiser notre désir d'assister à un épisode apocalyptique, comme l'indique le titre, puisque c'est REC 4 Apocalypse. Ils font ça pour les Resident Evil, c'est bien de mettre toujours Apocalypse. Alors, d'autant que le précédent film de l'Espagnol, hein, défendu ici même, hein, Malveillance, était un petit chef-d'œuvre, un thriller parano aux accents polanskiens et hitchcockiens. Bref, que du bonheur. Mais, et c'est bien triste à dire, pour un fan du genre comme moi, REC 4 est un ratage absolu. Un film platement mis en scène par un réalisateur démissionnaire, juste là pour satisfaire les producteurs contents de boucler une franchise jusque-là rentable. Alors, on écoute un petit extrait de la bande-annonce qui ne dit pas grand-chose en fait du film. Hein.
Bonjour Angela. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé ?
Où est-ce que je suis ?
Alors le film commence quelques heures après l'épisode 2, puisque le 3 était une sorte de préquel. Alors l'ultime survivante, Angela Vidal, qui, si vous vous en souvenez, travaille en tant que reporter pour une chaîne locale, est amenée dans un quartier haute sécurité, un bateau en fait, hein, pour être mise en quarantaine afin de subir des tests médicaux, car il est possible qu'elle soit contaminée. Bon, en fait, c'est sûr, puisqu'on le sait à la fin du 2, ce qui est quand même bizarre là en voyant le 4. Hein. Enfin bon, bref. Avec elle, son sauveur aussi est présent, un militaire. Hein. Alors dans ce lieu clos, le mal peut donc renaître là où on ne l'attend pas, et l'apocalypse peut alors commencer. Alors pour résumer, REC 4 est un film d'infectés, c'est-à-dire de faux zombies, particulièrement pénible à suivre, sans aucun enjeu, à peine plus rigolo qu'un mauvais jeu vidéo, et surtout réalisé n'importe comment. La caméra bouge dans tous les sens et les scènes d'action sont parfaitement illisibles. Les personnages sont tous caricaturaux, hein, entre les militaires débiles, le gros geek de service avec ses blagues pourries, et l'héroïne super balèze, Angela Vidal, moins jolie que dans les deux premiers d'ailleurs. Je sais pas pourquoi.
Elle vieillit peut-être.
Bah oui, elle vieillit pour ça, 6 ans après.
Ça y est, c'est fini.
C'est fini, allez, à poubelle. Alors bon, rien à sauver dans ce naufrage artistique qui rappelle un peu à la fin Titanic. C'est un peu normal pour un naufrage, oui, parce qu'il y a deux survivants en fait. Enfin bon, bref. Alors quelques scènes gore sympathiques peuvent contenter une poignée de fans bien indulgents. Hein. Les autres peuvent passer leur chemin et puis se retaper quand même le premier REC qui était vraiment
une
vraie réussite dans le genre.
Merci Manu. Après un ratage, on va parler d'un plutôt bon film et il est français.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Parlons vite de Qui vive de Marianne, Tardieu. Eh oui, Marine, tu m'obsèdes. Donc Marianne Tardieu, shérif la trentaine, peine à décrocher le concours d'infirmier, mais n'en est pas loin. En attendant, il travaille comme vigile ou agent de sécurité, hein, comme il préfère dire à ses potes de cité. Et il rencontre une fille, Jenny, donc tout pourrait aller bien, mais au centre commercial où il travaille, il perd pied face à une bande d'adolescents désœuvrés qui le harcèlent. Alors pour se débarrasser d'eux, eh bien, il accepte de rencarder un pote sur les livraisons du magasin. Un geste qui pourrait avoir des conséquences inattendues. Voilà que Reda Kateb passe d'un interne algérien bouc émissaire, hein, on l'a vu dans, comment s'appelait ce film
Il était dans Un prophète.
Non, c'était pas celui-ci que je pensais. Oui, bref. Donc, il passe d'un interne algérien bouc émissaire à prétendant au métier d'infirmier. Infirmier qui lui permettrait de quitter sa banlieue, l'appart de ses parents. Et pourquoi pas partir avec cette jeune fille qu'il vient de rencontrer. Alors, chronique sur la banlieue, ses tours, ses concerts de rap, ses potes droits, et puis c'est Lascar. Eh bien, Qui vive fait un détour aussi vers les conventions du monde du travail, la hiérarchie, la condescendance, voire l'humiliation qui s'y niche. On flirte avec le film noir, le polar, mais on reste dans un drame social intelligent. Un regard sur les banlieues loin des clichés. Reda Kateb, campe un homme bon, doux, perturbé aussi. Alors, l'amour n'arrive pas comme une bouffée de hashish qui embaume une Audi 4x4 et qui pourrait tout sauver, mais comme une chose simple, heureuse, mais fragile. La fragilité est peut-être ce qui définit le mieux ce premier film réussi de Marianne Tardieu. Fragilité des espaces entre les tours et le centre commercial, faiblesse des êtres qui y vivent, précarité de l'emploi dans une période de crise, et puis incertitude de la jeunesse qui traîne en attendant la sentence. Voilà, donc bien c'est sorti la semaine dernière, Qui vive de Marianne Tardieu, c'est encore sur les écrans.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Et nous passons à une sortie de ce mercredi 19 novembre. Ce sont Les Opportunistes. Mais en italien, ça donne Il Capitale Umano, ce qui veut dire le capital humain. Alors, c'est un film qui a raflé 7 prix des Césars du cinéma italien. C'est un peu le même succès que Les Garçons et Guillaume à table, hein, mais pas tout à fait le même film. Quoique Les Opportunistes est une comédie, ça c'est le point commun. Mais celle-ci n'est pas fantasque et pas exagérément drôle non plus. Adaptation du roman Human Capital de l'américain Stephen Amidon. Ou Amidon, j'imagine qu'on dit, hein, dans son pays. Les Opportunistes nous racontent selon 3 points de vue de 3 personnages, donc un court moment de la vie de 2 familles autour d'un événement tragique. Alors, d'un côté, nous avons le clan Bernacchi, la haute bourgeoisie d'affaires qui mise sur la faillite de son propre pays pour gagner toujours plus. De l'autre, on a Dino Ossala, un petit agent immobilier qui, profitant des amours de sa fille avec le rejeton de la haute bourgeoisie, aimerait bien prendre une part du gâteau. Eh bien, sauf que lui doit vraiment s'endetter pour espérer s'élever un peu. Tourné dans la région de Milan en hiver, Les Opportunistes ne brillent pas par une lumière typiquement méditerranéenne. Hein. Il y gèle, il y neige et il y pleut. Et avec ça, le constat sur l'Italie est sombre. On est prêt à se trahir, tromper pour l'argent, se taire quand il faut hurler. Et la réussite, quel qu'en soit le prix, voilà ce qui motive les personnages. Alors, pour huiler les rouages de la comédie, ces personnages sont radicaux. Il y a le financier, le chef d'une famille, qui, sa famille, il la croise entre 2 avions et un match de tennis. Il est séduisant, méprisant, riche, mais jamais assez. Il promet tout, mais ne donne rien. Il y a sa femme ensuite, qui est une ancienne actrice interprétée par Valeria Bruni Tedeschi, qui a des rêves de bienfaitrice, mais se fait piéger par un monde qu'elle a choisi avec ses bijoux et ses dîners mondains. Il y a le fiston qui culpabilise et de ne pas recevoir l'admiration de son père. Et puis on trouve l'agent immobilier prêt à tout pour une culbute à 40% de bonus, mais avec 60% de ridicule. C'est comme ça. Et puis, il y a la fille de cet agent immobilier qui, si elle ne veut pas l'argent, elle cache une autre passion. Alors Paolo Virzi orchestre donc un chassé-croisé de ses personnages en prenant soin d'épouser 3 points de vue, l'agent immobilier, sa fille, et la femme de la haute bourgeoisie. Il s'agit donc de revivre quelques séquences avec des points de vue différents, on aperçoit les craquelures, les faiblesses, les bassesses de chacun, mais tout cela, toute cette exposition est peut-être un peu convenue et le procédé des différents points de vue, à part faire naître de temps à autre des décalages qu'on aurait pu comprendre autrement, n'apporte pas grand-chose. Par ailleurs, il y a quelques séquences savoureuses comme celle jouée par Valeria Bruni Tedeschi qui s'improvise directrice d'un théâtre en réunissant des experts pour faire sa programmation, tout cela autour d'une petite citronnade. C'est une manière de voir le microcosme culturel d'une ville de province. Alors, le précédent film de Paolo Virzi, Chaque jour que Dieu fait, avait de la tendresse pour ses personnages et on percevait le plaisir de la langue, du dialogue. Ici, même si l'ensemble est bien écrit, on peine à y voir autre qu'un exercice bien joué. Le personnage de Valeria Bruni Tedeschi est une sorte de Bovary contrarié. Le personnage de la fille serait le plus intéressant à fouiller, mais c'est le plus mal écrit, justement parce qu'il sort du cadre de ces gens gouvernés par l'argent. À noter aussi que le titre, Le capital humain, fait référence donc à une espèce de norme pour les assureurs qui considèrent que le capital humain, à partir du moment où quelqu'un disparaît, c'est l'espérance de vie de cette personne, ses rétributions potentielles, la quantité et la qualité de ses liens affectifs. C'est comme ça qu'on peut définir eh bien, combien donner en cas de la mort de n'importe qui. Voilà, capital humain. Ça sort aujourd'hui, Les opportunistes.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et maintenant, on va refaire une petite plongée bien dans les années 80 avec un film culte de l'année 84, un film qui aura vraiment particulièrement marqué, je pense, toute la génération des moins de 30 ans. C'est vrai que dans ce studio, il y en a peu qui sont concernés. On va tout de suite se remettre dans le bain avec un petit extrait.
Je voulais juste aller à... Je devais... Enfin, j'essayais de...
De filer en douce.
Oui. Enfin, non, non.
J'adore les enfants.
Comme petit déjeuner?
Non, pas du tout. Je suis un dragon porte-bonheur. Je m'appelle Falcon.
Et moi, je m'appelle...
Atreus. Et tu poursuis une quête.
Comment le sais-tu?
Quand tu étais inconscient, tu as parlé dans ton sommeil. Pourrais-tu venir ici et me gratter derrière l'oreille droite? J'ai toujours beaucoup de mal à y arriver.
Là?
Oui.
Oui, voilà, donc c'était donc les bruitages du dragon chien, si vous vous souvenez un petit peu.
Albinos.
Donc, le fameux dragon donc, de l'histoire sans fin. Alors, à l'époque, ce film de Wolfgang Petersen fut le plus cher jamais réalisé en Allemagne. Il a connu d'ailleurs un succès assez phénoménal, sauf pour l'auteur eh bien, du livre initial, Michael Ende, qui l'a renié tout de suite et qui a toujours refusé d'apparaître au générique. Un rejet qui n'entravera en rien la carrière du film, puisqu'il engrangera des recettes considérables et donnera également naissance à deux suites, mais qui seront quand même nettement moins marquantes. Alors l'histoire sans fin, si vous vous souvenez, c'était celle de Bastien, un petit garçon persécuté par ses camarades, qui découvre un jour un livre mystérieux et qui se laisse happer par son histoire, l'histoire d'un royaume peuplé de créatures imaginaires au sein duquel le jeune guerrier Atreus tentait de sauver une princesse en danger. L'histoire sans fin a en revanche, marqué d'une façon assez nette la fin de la carrière de ses protagonistes. Barrett Oliver, le jeune acteur qui interprétait Bastien, poursuivra sa carrière sur une lancée plutôt respectable au début, puisqu'il donnera ensuite sa voix au personnage de Frankenweenie dans le court-métrage animé de Tim Burton. Mais la suite ne sera pas aussi notable, il finira par se reconvertir dans la photographie. Alors, contrairement à certaines gloires de la fin du XXe siècle qui nous reviennent à 40 ans, beaux, musclés et talentueux comme Matthew McConaughey, Barrett Oliver, lui, est devenu scientologue barbu et il porte des dreadlocks. Il continue toujours à écumer les tournages, mais de façon anonyme, en tant que photographe de plateau. L'autre protagoniste du film, Atreus, était joué par le comédien Noah Hathaway, inséparable dans l'histoire sans fin de son fidèle cheval Artax, non pas Anthrax. Sa carrière sera tout aussi fulgurante que celle de sa monture. On va écouter un autre extrait où on peut vraiment saisir toute la finesse du jeu du cheval. Alors, je préfère quand même vous prévenir que la scène qui va suivre a été classée 5e dans le top 10 des scènes les plus tristes de notre enfance, dans un classement très sérieux du Nostalgia Classique.
Chacun sait que celui qui se laisse envahir par la mélancolie sombre dans les marécages.
Encore un effort. C'est ça. Avance, Artax. Mais qu'est-ce qui se passe ?
faut avancer. Qu'est-ce qui te prend? Je vois. C'est trop difficile pour toi. Artax, tu t'enfonces! Fais un effort! Retourne-toi! Vite, retourne-toi! Viens! Artax! Lutte contre la business!
Alors, Noah Hathaway délaissera finalement les chevaux pour le tuning de moto et il se reconvertira dans le tatouage après quelques doublages de films et menus apparitions. À noter que la musique qu'on entend au cours de cette scène est composée par Giorgio Moroder, qui est tout simplement l'un des premiers compositeurs de musique électronique. Entre autres, c'est celui qui a signé I Feel Love de Donna Summer et Call Me de Blondie, et puis qui est revenu assez récemment avec les Daft Punk. Et c'est également lui qui signe toute la bande originale de L'Histoire sans fin, y compris le générique, un chef-d'œuvre quand même des années 80, interprété par Limal, le chanteur du groupe Kajagoogoo, qui lui aussi a disparu. Je ne sais pas pourquoi, apparemment il y a une espèce de malédiction inhérente à ce film, mais du coup on va se faire un plaisir de le réécouter. Voilà, c'était l'image du groupe Kajagoogoo.
Eh oui, ma spéciale dédicace à tous ceux qui aiment les années 80. Vous êtes sur Diverge.
Alors là, il n'y a pas eu une malédiction sur tout le film, puisqu'il y avait le réalisateur Wolfgang Petersen qui est devenu un des réalisateurs de blockbusters américains, dont Air Force One, En pleine tempête. Et il avait réalisé avant L'Histoire sans fin Le bateau, notamment.
Et trois aussi, non? C'est celui qui avait trois? Semble-t-il, trois.
Il a fait trois également. Enfin, c'est devenu quand même un des piliers du cinéma américain à gros budget, en fait. Donc lui, s'en est sorti. Ouais. Voilà.
Il n'a pas entraîné les autres, c'est ce qu'on peut dire. Merci Manu pour ces précisions.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Et nous allons parler de Quand vient la nuit de Michael R. Roskam. Alors son précédent long métrage avait doublement marqué les esprits et ravi les grincheux. Beled, viré dans les élevages bovins dopés aux hormones dans la plate Belgique, avait révélé Michael R. Roskam, tout comme Matthias Schoenaerts, le bodybuildé acteur que l'on avait pu apprécier dans De Rouillé d'Os et que l'on retrouve dans Quand la nuit vient. Quand vient la nuit, pardon. Il n'est pas le seul acteur au physique massif à jouer, puisque le rôle principal est tenu par Tom Hardy, qui a interprété le criminel Bronson dans un film de Nicolas Winding Refn, ou Bane, l'ennemi de Batman dans le troisième volet de la trilogie de Nolan. Alors un acteur capable de transformer pour un rôle, il est ici physiquement loin de ses rôles les plus spectaculaire, mais on le sent quand même un peu massif. Il interprète Bob Saginowski, un barman solitaire, employé dans le rat de Marv, son lointain cousin, un bar de Brooklyn qui fait partie de la galaxie tchétchène et sert au blanchiment d'argent basé sur des barres dépôt.
C'est que, à Brooklyn, l'argent change de main toute la nuit et c'est carrément pas le genre qu'on peut déposer à la banque. Alors tout cet argent, il faut bien qu'il atterrisse quelque part. On appelle ça un bar de dépôt. Un bar que les gros bonnets choisissent au hasard, chaque soir, pour en faire le coffre de toute une ville. Tu sais jamais d'avance quand ton bar servira de dépôt. Tu dois récupérer ce qu'il y a de plus sale comme fric. Des porteurs venus des quatre coins de la ville rentrent et sortent, mais ni vu ni connu, l'argent arrive. Ni vu ni connu, il repart. Et puis ça arrive qu'on te dise que tu serviras de dépôt dans 8 jours. Ou même dans 1 an. C'est ça le truc. Tu sais jamais. En attendant, moi, je fais que servir au bar et attendre.
Voilà expliqué hein, le système des drop bars. The Drop est d'ailleurs le titre original. Alors c'est dans cette atmosphère de pègre qu'évolue Bob, qui est plutôt du genre à ne pas faire de vagues, hein, plutôt taiseux, bosseur, honnête, semble-t-il, et généreux. Alors le problème n'est pas lui, mais ce qui se passe autour de lui, un braquage malheureux, un chiot tabassé qu'il récupère dans une poubelle auquel il s'attache et que son propriétaire, personnage trouble, fait mine de récupérer.
Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas me donner 10 000 dollars. Quoi ? 10 000 dollars, demain matin au plus tard.
Tu crois que les gens ont ça sous le coude ?
Bon, écoute, si tu veux le clébard, tu me files 10 000 dollars, c'est simple. Ok, écoute, mon gars. Tu peux pas débarquer comme ça dans la vie des gens et espérer...
Non, toi, écoute, chut, relax, et écoute-moi. La vie est faite comme ça. On n'y peut rien. Des mecs comme moi qui débarquent quand tu fais pas attention.
Alors, 10 000 dollars pour un clébard, qui pourrait le faire ? Je ne sais pas. Dans ce studio, personne. Alors, on sent qu'on ne va pas s'en tenir là. Bob n'est plus si seul. Il y a aussi son cousin qui apparaît obnubilé par l'argent, les Tchétchènes qui le couvent, l'argent, hein, la police qui cherche à dénouer une vieille affaire et puis une fille au milieu de tout ça. Alors, si au début, on sentait qu'on était vaguement dans un film de gangster mou de la gâchette, hein, mélancolique pour le dire autrement, on va peu à peu vers le film noir teinté de drame. Le vernis derrière va finir par se craqueler pour un final imprévisible qu'une mise en scène adroite et volontairement sobre fait passer avec un certain naturel. Si Dieu plane un temps sur le film, car le Bob en question et le flic partagent la même paroisse, la fin nous écarte d'un discours rabâché sur le bien et le mal et d'une morale apaisante. Le film doit beaucoup à son scénariste, qui est aussi l'auteur de la nouvelle dont il est l'adaptation, c'est Denis Lehan, qui est aussi producteur du film, hein, il a mis ses sous là-dedans, auteur de Mystic River ou Shutter Island. Et il doit alors ce film aussi son succès à ses acteurs, Tom Hardy, James Gandolfini, à qui le film est dédié, puisqu'il est disparu donc, en 2013, et puis Matthias Schoenaerts, qui incarne parfaitement le maître chanteur à l'esprit fêlé. Alors c'est un peu moins flagrant pour Noémie Rapace, mais le personnage féminin est beaucoup plus convenu. Quand vient la nuit, fait apparaître donc des personnages aux apparences trompeuses, et si Bob est fermé et les autres sont transparents, tous vont éclater. C'est une belle réussite quand même ce nouveau long métrage donc de Michael R. Roskam, Quand vient la nuit, qui est déjà sorti.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et pour finir en beauté, hein, sur le polar français des années 80, je vais non seulement m'écarter de mon principe de base, mais aussi vous parler certainement du meilleur polar français de cette époque. Il ne s'agit pas, contrairement à tous les autres films chroniqués ici, d'une adaptation littéraire d'un roman noir, mais bel et bien d'un scénario original, co-signé, je vous le donne en mille, par Jacques Audiard, de nouveau. Oui, comme quoi, je fais un lien avec ma précédente chronique, puisqu'il était aussi co-signataire du scénario de Mortelle Randonnée. Alors, après l'échec public de son premier film Anthracite, Edouard Nierman se tourne vers la télévision et réalise un excellent épisode de la série noire en 1984 qui s'appelait L'ennemi public numéro 2. Alors, pour info, il s'agissait de formidables téléfilms signés entre autres par quelques pointures, hein, dont José Giovanni, Joël Seria ou encore Jean-Luc Godard. Au départ, donc, il s'agit d'une commande, ou plutôt d'une demande du producteur de réaliser à nouveau un polar. Peu enclin au genre, Niermans, de peur de se voir enfermé dans un style, refusa dans un premier temps, puis finit par accepter, à condition d'avoir les mains libres et de traiter le genre de façon détournée, voire de partir dans d'autres directions. Il s'adjoint donc les services de Jacques Audiard et Alain Lehenry pour écrire le scénario, qui, surprise, respecte en fait toutes les règles classiques du polar. Bien écrit et dialogué, le récit peut néanmoins tiquer les plus pointilleux, car si la mécanique est bien huilée, il faut en passer par un certain nombre de coïncidences un peu faciles. Mais peu importe, nous sommes au cinéma et c'est le résultat qui compte. Nous écoutons donc la bande-annonce.
C'est la première fois que tu fais la pute.
Oui, monsieur. Il s'appelle Igor.
Ha ha ha!
blonde de la brigade criminelle.
Après quoi?
Elle est jalouse, Martine?
Si tu sais encore où elle est, tu me l'amènes. Comme ça, au moins, elle vivra.
Si ça vous fait du bien, on peut se revoir demain.
Mardi, je t'aime!
Le flic cocu, ça fait toujours rire, hein?
C'est quoi le numéro de la chambre?
L'entrée, c'est la tête!
Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y a quelqu'un? Ça change quoi?
Parce que moi, ces derniers temps, il paraît que je ne faisais plus rien.
Je connais la maison, ta vie ici va devenir impossible.
Ce n'est pas tous les jours qu'on photographie un assassin.
Si vous m'aimez, s'il vous plaît, tirez.
Alors Bernard Giraudot, hein, il incarne un flic à la dérive et alcoolique, Simon Blunt. Alors ça arrive même au meilleur, hein. Martine, sa femme, l'a quitté pour un semi-gangster, un certain Igor. Méprisé dans son boulot, il continue par désespoir à mener des petites enquêtes dont personne ne veut. Et puis un soir, dans un supermarché, il rencontre Violetta, une jeune paumée totalement mytho. Le pauvre flic va s'attacher à elle, sauf qu'entre-temps, le fameux Igor est assassiné et sa femme gravement blessée. Alors de plus, en visionnant des bandes vidéo sur un braquage de banque, Simon reconnaît Violetta parmi les responsables. Alors tout cela va par ailleurs se recouper, d'où de nombreuses coïncidences évoquées ci-dessus, parfois un peu too much. Mais le plaisir quand même de suivre une bonne intrigue est intact. Mais Poussière d'ange, hein, d'ailleurs je trouve que c'est un très très beau titre, hein, est un polar comme on en fait assez peu en France, hein, un poétique, atmosphérique et très mélancolique. Filmé en grande partie de nuit, Niermans a inventé une ville de toutes pièces et créé un décor fascinant et inquiétant, magnifiquement éclairé par Bernard Luttig qui joue sur les contrastes de lumière fascinants. Alors en filmant à la fois Lille, Lyon et Marseille, Niermans instaure une ambiance unique qui transcende un récit plutôt haletant. Hormis la musique ancrée dans son époque mais très discrète, il est quasi impossible de dater le film. D'ailleurs, dans une interview présente, hein, sur le DVD, Niermans expliquait qu'il voulait filmer le moins possible de voitures pour justement ne pas temporaliser le film. Alors pour Poussière d'ange, c'est vraiment un formidable thriller, hein, âpre et désespéré, aux accents lynchiens. On pense parfois même à Blue Velvet, hein, un film assez hybride qui ne se refuse pas notamment à l'humour. Ça, je pense que c'est un peu la patte de Jacques Audiard. Et puis surtout, c'est la composition extraordinaire de Bernard Giraudot en flic déchu, hein, qui mérite le détour. Je crois que si il y a une raison pour aller voir le film, c'est vraiment la présence de Giraudot, qu'on n'avait jamais vu comme ça auparavant.
Et puis donc, alors ça c'est étonnant, cette histoire de voiture, parce que bon, effectivement ça marque une époque, mais il y a aussi les vêtements, comment on s'habille, enfin il s'en est sorti comment pour ça?
Il a une espèce de look, notamment Giraudot, complètement...
Vaguement futuriste.
Non, mais c'est une sorte de look, il a un long manteau, un jean normal, trop ample pour lui, mais il pourrait sortir de n'importe quelle
époque.
De n'importe quelle époque.
Pourvu que le jean ait été inventé. Ouais.
Voilà. Alors il y a peut-être le petit tailleur rose de Fanny Cottençon au début qui est peut-être un peu daté.
La poussière des anges, c'est en DVD.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de deux films qui sortent. La semaine prochaine, ce sera Tiens ta droite de Katia Lekovitz et Marina Foïs. On les écoutera d'ailleurs dans l'émission. Et puis toi, Marine, tu parleras de L'Incomprise.
Oui, de Asia Argento. Et je vous parlerai également de Eden de Mia Hansen-Love qui sort aujourd'hui.
Cinérama. 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 Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.